Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du 23 juillet. Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec en votre compagnie. Voici les points qui dominent l'actualité. Ce soir à Brazzaville, fin du forum sur la paix en Centrafrique. Les parties ont abouti à des accords. Nous aurons notre correspondant en direct de la capitale congolaise. Nigeria, au moins 42 personnes ont été tuées dans un double attentat dans le nord du pays. Violence en Somalie, une députée et chanteuse célèbre a été abattue dans la capitale Mogadiscio. Ukraine, reprise des hostilités dans l'Est. Kiev annonce que les séparatistes ont abattu deux avions de combat. Au Proche-Orient, les tractations diplomatiques se poursuivent pour l'arrêt des hostilités à Gaza. Et bien sûr, on aura les sports et la musique en fin d'émission. Bonsoir Morgane.
Bonsoir Gabi, bonsoir l'Afrique.
Pour l'instant, le journal.
Près de 170 délégués centrafricains sont réunis depuis lundi à Brazzaville dans un forum pour la réconciliation nationale et le dialogue politique. Les représentants de la CELECA ont traîné des pieds pour rejoindre les discussions. Apparemment, ils viennent de signer un accord. Nous avons en direct de Brazzaville notre correspondant Ngouélane Goussou.
Allô ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Alors, l'accord a bel et bien été signé à Brazzaville?
Tout à fait. L'accord vient d'être signé à l'instant même ici à Brazzaville par les délégués centrafricains. Ils sont en réunion depuis lundi, donc ici à Brazzaville. Mais alors, une cérémonie de signature d'accord qui a eu lieu avec 3 heures de retard parce que les tractations ont été très difficiles pour ramener les délégués de la coalition ex-CELECA à la table de négociation. Le général Moussa Dafane, en revenant dans la salle, a tenu un discours qui fera date ici à Brazzaville. Il a demandé pardon au médiateur Denis Sassou Nguesso et à tous les délégués centrafricains venus à ce forum. Nous avons conscience d'avoir manqué une étape importante de notre histoire, a déclaré le général Dafane, qui a reconnu qu'il n'avait pas le droit, en tout cas la coalition CELECA, de prendre les armes pour revendiquer leurs droits. Maintenant, l'accord a été signé par tous les délégués et au moment où nous émettons, le secrétaire général de la communauté des États de l'Afrique centrale est en train de lire le communiqué final sanctionnant donc ces travaux.
Oui, alors Ngouélane Goussou, on va revenir un peu plus tard dans cette émission avec des détails sur ce forum de Brazzaville et l'accord qui a été signé ce soir.
Merci.
À plus tard. Nouveau Premier ministre au Rwanda, le président Paul Kagame a chargé Anastase Murekezi, ex-ministre du Travail, de former un gouvernement. Il remplace Pierre Habumuremyi, qui occupait le poste depuis 2011. La présidence rwandaise n'a pas précisé les raisons de ce changement.
Nouveaux attentats dans le nord du Nigeria. La police annonce qu'au moins 25 personnes ont été tuées dans une attaque suicide à Kaduna. Une deuxième explosion près d'un marché de la ville a fait au moins 17 morts, selon les services de secours. Le gouverneur de l'état de Kaduna a imposé mercredi un couvre-feu immédiat de 24 heures.
Une députée somalienne et chanteuse célèbre, Sado Ali Warsam, a été abattue dans la capitale Mogadiscio en même temps que son chauffeur par des insurgés islamistes Shebab. Michel Joseph.
Des tireurs en voiture ont ouvert le feu sur son véhicule dans un quartier du sud de la capitale. Son chauffeur a aussi été tué. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les Shebab avaient promis en avril dernier de tuer un à un tous les parlementaires accusés d'être des mécréants au service des intérêts de l'étranger. Chassé de Mogadiscio en août 2011, mais toujours présent dans les zones rurales, les islamistes Shebab ont multiplié récemment les attentats contre les institutions somaliennes. Ils ont aussi revendiqué une série d'attaques meurtrières dans des pays voisins engagés militairement en Somalie comme le Kenya et l'Ouganda.
Le bureau humanitaire de l'ONU promet 75 millions de dollars d'aide d'urgence à 11 pays d'Afrique. Des fonds qui seront destinés à faire face aux crises alimentaires et à la malnutrition. La Somalie, où près de 3 millions de personnes manquent de nourriture, sera le principal bénéficiaire, ainsi que l'Éthiopie et le Kenya. Le Niger, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso et la Mauritanie recevront des fonds plus modestes.
Les combats se sont poursuivis aujourd'hui autour de l'aéroport de Tripoli en Libye. Des explosions étaient entendues depuis le centre de la capitale et des colonnes de fumée visibles au-dessus du secteur de l'aéroport. Selon un correspondant de l'AFP, des roquettes ont atterri sur plusieurs habitations et plusieurs familles fuyaient les combats, a raconté un habitant à l'agence France-Presse. Au plan politique, l'entrée en fonction du nouveau Parlement a été fixée au 4 août dans l'espoir de mettre fin au chaos dans lequel s'enfonce la Libye.
Et puis, épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un responsable médical du centre de traitement de Kinema a été testé positif au virus. C'est ce qu'annonce le gouvernement alors que 3 infirmières du même centre sont récemment mortes. Kinema, situé dans l'est de la Sierra Leone, est une des régions les plus affectées par l'Ebola. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, 422 cas ont été recensés en Sierra Leone, dont 143 mortels.
En Afrique du Sud, un braconnier de rhinocéros a été condamné à 77 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée en matière de braconnage dans le pays. Jacques Aristide.
Le Sud-Africain Manla Tshoké a été reconnu coupable par le tribunal régional de Nelspruit d'entrée illicite dans le parc national de Gruger, d'avoir tué et décorné 3 rhinocéros, de meurtre et de détention illégale d'armes à feu et de munitions. L'homme avait été arrêté en 2011 lors d'une opération dans laquelle l'un de ses 2 complices avait été abattu par les rangers du parc. Mais d'après la chaîne SABC, les procureurs ont pu convaincre la cour de l'entière responsabilité de Tshoké dans cet échange de tirs fatal. Le 3e suspect, lui, avait pu prendre la fuite. Pour Reynold Takouli, le porte-parole du parc de Gruger, ce verdict est un fort signal de dissuasion aux braconniers dans un pays dont l'économie dépend énormément de sa faune pour promouvoir le tourisme. En 2013, 3 Mozambicains avaient été condamnés à 16 ans de prison pour avoir abattu 9 femelles rhinocéros blancs et son bébé dans le même parc. Et en 2012, un trafiquant thaïlandais avait été condamné à 40 ans de prison par un tribunal de Johannesburg.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, 2 avions de chasse ukrainiens ont été abattus ce mercredi dans l'est du pays par les séparatistes pro-russes, à seulement 45 km du site du crash de l'avion malaisien touché jeudi dernier par un missile. Lionel Gaïma.
Selon un autre porte-parole militaire ukrainien cité par l'AFP, les appareils ont été abattus par des missiles sol-air. Il a ajouté que les pilotes ont réussi à s'éjecter au-dessus de la zone contrôlée par les forces séparatistes. Par ailleurs, 2 avions militaires contenant les dépouilles de certaines de 298 victimes du crash de l'avion malaisien sont arrivés aujourd'hui aux Pays-Bas, où les drapeaux sont en berne. Une journée de deuil national est observée à travers tout le pays. Des dignitaires et proches des disparus étaient présents sur le tarmac pour déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage à leur mémoire.
9 étudiants nigérians sont pris au piège dans l'est de l'Ukraine. Ils seraient détenus par les séparatistes pro-russes à Lugansk. Un responsable ukrainien a affirmé hier que des négociations sont en cours pour obtenir leur libération.
Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une commission internationale d'urgence pour enquêter sur toutes les violations qui auraient été commises dans le cadre de l'offensive israélienne à Gaza, où plus de 670 Palestiniens ont été tués. Hier, Navi Pillay, au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, avait appelé à une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par Israël à Gaza. Elle avait dénoncé aussi les attaques aveugles menées par le Hamas contre des zones civiles. Sur le terrain, les tractations politiques se poursuivent. Nicolas Pineau.
Oui, le secrétaire d'État américain John Kerry a pourtant affirmé aujourd'hui qu'il y a des progrès pour parvenir à un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël. Une déclaration faite à l'issue d'un entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas et le négociateur palestinien en chef Saeb Erekat. Ce dernier a affirmé que la levée du blocus de Gaza par Israël était un point clé des pourparlers. Monsieur Kerry s'est aussi entretenu avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président israélien Shimon Peres. Conséquence de ce conflit à Gaza, les vols vers l'aéroport de Tel Aviv restent perturbés. L'Agence fédérale de l'aviation américaine a prolongé de 24 heures l'interdiction faite aux compagnies aériennes américaines de voler vers Tel Aviv. Cette décision de la FAA s'explique par la chute d'une roquette du Hamas à proximité de l'aéroport international Ben Gurion.
Un avion de la TransAsia Airways s'est abîmé sur une île entre Taïwan et la Chine continentale, bilan plusieurs dizaines de morts. Les autorités précisent également que 47 passagers demeurent coincés sous les débris de l'appareil. 11 survivants ont été acheminés vers un hôpital de la zone. La météo avait signalé de fortes pluies et des vents violents dans la région, dus au passage d'un typhon.
Possible percée diplomatique en Asie du Sud. Le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, Aizaz Ahmad Chaudhry, et son homologue indien, Sujata Singh, ont convenu d'ouvrir des pourparlers à Islamabad dans à peu près un mois. Cette annonce intervient moins de deux mois après la rencontre historique des premiers ministres des deux frères ennemis à New Delhi.
Visite officielle à Cuba du président chinois Xi Jinping. Il a été reçu hier au palais de la Révolution à La Havane par son homologue cubain fidèle, plutôt Raúl Castro. Xi Jinping, qui a aussi rencontré le leader révolutionnaire Fidel Castro, est au terme d'une tournée latino-américaine qu'il a déjà conduite au Venezuela, en Argentine et au Brésil. Voilà pour le journal. Il est 18h41 en temps universel, 14h41 ici à Washington. Chez Ruben Orsil et Morgane Guerriac en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Et dans la partie magazine de notre émission, retour sur le forum de Brazzaville, ce dialogue inter-centrafricain. Les participants étaient répartis en commission pour travailler sur la fin des hostilités entre ex-Séléka et anti-Balaka, entre autres, et ils ont abouti à un accord. Nous avons à nouveau avec nous en direct de la capitale congolaise notre correspondant Nguela Ngoussou. Allô Nguela.
Voilà, nous sommes toujours au rond-point de Brazzaville et des palais des congrès donc de Brazzaville où se clôture en ce moment ce forum inter-centrafricain.
Alors, et dites-nous comment on a pu aboutir à cet accord, parce qu'on savait qu'au départ les ex-Séléka ne voulaient même pas prendre part à ce forum.
Ah oui, il faut dire que jusqu'à 15 heures temps universel, la délégation donc des ex-Séléka était toujours à leur hôtel. Donc ils n'étaient même pas sûrs qu'on devait arriver à cet accord aujourd'hui, ce soir, à Brazzaville. Et finalement, le médiateur international, le président Denis Sassou Nguesso, a dépêché une délégation, donc qui a fait pression auprès des membres de l'ex-Séléka, qui sont revenus dans la salle et qui ont pris pendant quelques heures, ce qui a ramené la cérémonie avec trois heures de retard. Et c'est donc le général Dafan qui est venu demander les excuses, qui a demandé pardon et qui a dit qu'ils étaient engagés à faire de la paix en Centrafrique. Il a mis en garde contre tous ceux-là qui devaient ramer en contre-courant. Et ça a été la grande surprise parce que plus personne ne croyait à la signature ce soir de cet accord où on a vu défiler, non pas seulement lui-même, le général Dafan pour la coalition des ex-Séléka, mais aussi Patrice-Édouard Ngaïsona pour les anti-Balaka, les partis politiques, les ONG, les organisations des femmes et des jeunes, les partis politiques, les plateformes religieuses. En tout cas, tout le monde est passé à poser la signature sur cet accord et avec le médiateur international, M. Denis Sassou Nguesso.
Alors, Nguela Ngoussou, quels sont les principaux points de cet accord?
Bon, à l'heure où je vous parle, il faut préciser, il faut dire que l'accord n'a pas été lu intégralement, mais on sait que les partis se sont engagés à mettre fin aux hostilités à partir d'aujourd'hui. La guerre est finie en République centrafricaine. Et il n'y a pas que la guerre, mais également l'accord prévoit de mettre fin à toute la campagne de haine entre les communautés. Et les délégués se sont également engagés à continuer le dialogue politique en République centrafricaine. Dans l'accord également, on prévoit qu'il y aura le désarmement afin que tous les combattants soient réinsérés et réintègrent la vie civile. Voilà un peu principalement les principaux points qui sont ressortis de cet accord, l'accord signé ce soir à Brazzaville.
Donc on attend des précisions officielles. On reviendra bien sûr sur la signature de cet accord entre les parties centrafricaines. A signalé que la société civile n'a pas voulu participer. Il y a des secteurs de l'opposition qui n'ont pas voulu non plus se rendre à Brazzaville. Merci Ngolan Nguessou.
Merci, merci.
Ngolan Nguessou, notre correspondant dans la capitale congolaise.
Côte d'Ivoire, l'emploi des jeunes au centre de la troisième conférence des ministres, membres du pôle qualité interpays dans le domaine du développement des compétences techniques et professionnelles. L'objectif est de transformer le pôle de qualité en une structure stable, capable de contribuer à la baisse du taux de chômage chez les jeunes en Afrique. Reportage de notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
La réflexion des ministres chargés de l'emploi venus de 25 pays du continent africain vise à faire de l'ADA, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, un lieu permanent et efficace de mutualisation et de valorisation des politiques et pratiques de développement des compétences au service de l'ensemble de la population active africaine. À ce rendez-vous d'Abidjan, le porte-parole des jeunes a souhaité que les décisions qui sanctionneront cette rencontre donnent des effets palpables. Asari Priska.
Nous, jeunes, souhaitons que cette rencontre ne soit pas une rencontre de plus. Et que cette rencontre africaine nous projette vers le concret, vers des perspectives d'action qui conviennent à notre situation. Les jeunes africains sont prêts à être des acteurs du développement. Nous, jeunes, avons besoin de sentir qu'au-delà des grands discours sur l'emploi, notre insertion dans la vie effective demeure des préoccupations pour vous, nos gouvernants.
48 heures durant, les experts ont analysé les situations des pays membres cas par cas. Les résultats obtenus pourront, selon le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, satisfaire les besoins exprimés par la jeunesse de Somoussa.
Il sera possible de renforcer de manière continue la coopération ainsi que la mutualisation des expériences, des bonnes pratiques en matière de développement des compétences techniques et professionnelles au niveau de l'ensemble du continent. À cette rencontre, nous esquisserons de vraies solutions pour permettre de vous donner une meilleure visibilité pour les années à venir en termes de réinsertion de la jeunesse ivoirienne, mais surtout la jeunesse de l'ensemble des pays membres de l'ADA.
Les difficultés étant presque identiques en Afrique, le Premier ministre ivoirien Kablan Duncan souhaite que le chômage des jeunes fasse l'objet d'une attention particulière.
Le chômage des jeunes conduit au désarroi, à la marginalisation de la société et aux tensions de tous ordres, y compris leur implication dans les conflits armés. Que nos excellents résultats économiques se traduisent par une amélioration continue des revenus à travers une offre à la fois qualitative et quantitative d'emploi, sans oublier bien sûr l'auto-emploi qui doit jouer un rôle toujours plus croissant. Les jeunes doivent constituer pour nos nations africaines une force et une richesse. La jeunesse, expression de mouvement, d'énergie et d'innovation, est par son énorme capacité d'adaptation un vecteur de modernisation économique et sociale. Ce sont les acteurs de la transformation structurelle de nos économies.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
La presse malgache en émoi suite à l'arrestation de deux journalistes dont la publication avait diffusé une lettre de lecteurs accusant trois ministres d'être complices d'un trafic de bois de rose. Une cinquantaine de journalistes ont manifesté mardi à Antananarivo contre leur incarcération, Morgane Guériac.
Le directeur de la publication du journal Madagascar Matin, Jean-Luc Raga, et son rédacteur en chef, Didier Ramanoël, ont été arrêtés lundi pour diffamation publique et délit de presse. Ils risquent une peine de prison.
Madagascar Matin a publié la semaine dernière une lettre de lecteurs accusant trois ministres d'être impliqués dans les trafics de bois de rose. L'un d'eux, Rivo Rakotov, a porté plainte. On écoute la réaction de Cléa Kansriber, responsable pour l'Afrique, à Reporters sans frontières.
RSF condamne absolument cette incarcération de ces deux journalistes. En aucun cas est-il justifiable que des journalistes se retrouvent derrière les barreaux pour une histoire de diffamation, car c'est de cela qu'il s'agit. L'un des ministres dont vous parlez, qui a été mis en cause dans la lettre, a porté plainte pour diffamation, ce qui S'il décide de ne pas utiliser le droit de réponse et de passer tout de suite au judiciaire et au contentieux, bon, très bien, c'est son droit et il a porté plainte. Mais en quoi est-ce que ces deux journalistes qui ont publié une lettre sont un danger pour la société et doivent se retrouver derrière les barreaux? Pour nous, c'est une réaction absolument disproportionnée et qui, en fin de compte, dissimule assez mal une manœuvre politique d'intimidation féroce contre ces deux journalistes.
Ils ont simplement publié une lettre.
Oui, c'est une lettre d'un lecteur qui a été signée. Même un éditeur qui republie une lettre, évidemment, est responsable du contenu de ses publications. Mais pour RSF et au vu du droit, hein, ça ne justifie en rien qu'il puisse être mis derrière les barreaux. Si le ministre souhaite exercer son droit de réponse, il peut également le faire par lettre. Mais ce n'est pas une réponse proportionnée que d'enfermer un rédacteur en chef en prison. Pour justement, comme vous l'avez dit, avoir tout simplement republié un courrier des lecteurs.
Cléa Kahn-Sriber, responsable pour l'Afrique à RSF, jointe par Camille Grosdidier.
Jacques Aristide avec vous, Washington Forum ce jeudi. Lutte contre le sida, les défis encore à relever. À l'heure où se tient à Melbourne la 20e conférence internationale sur l'épidémie, vos questions et commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique ou à fr@voanews.com. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Parlons à présent de Francis Tchiégué. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais ce Camerounais est une star en Chine, n'est-ce pas Gabi?
Oui, il est chanteur d'opéra en mandarin. Cet artiste se produit partout dans le pays, Morgane, un parcours hors du commun entamé il y a 10 ans.
Nicolas Pinault a joint Francis Tchiégué, lui-même chanteur à la Voix d'Or à Pékin.
À mon arrivée, dès la première année, j'ai d'abord fait une année de langue, exclusivement de langue chinoise, s'entend, puisque j'avais aucune base, je savais même pas dire bonjour en chinois quand j'arrivais, en 2004 à l'époque. Et c'est donc pendant ces débuts-là, ces premiers mois, que j'ai commencé à devenir un peu mordu de culture chinoise, parce que là, je touchais du doigt au quotidien la culture chinoise, et c'était l'occasion pour moi, n'est-ce pas, de découvrir la richesse infinie de cette culture qui est plus ou moins mal connue à l'extérieur de la Chine, je veux dire. J'ai commencé à prendre part à toutes sortes d'événements culturels au sein de l'université, dont je devenais là plus ou moins connu un peu du public restreint des campus et tout ça. Et là, il s'agissait maintenant de m'intéresser davantage à la musique classique locale, c'est-à-dire chinoise.
Pour ceux qui nous écoutent, pourriez-vous expliquer actuellement qu'est-ce que vous chantez? Est-ce plutôt traditionnel, plutôt moderne?
Dans l'opéra chinois, vous avez des divisions par région. Et moi, je suis donc impliqué dans l'opéra chinois en général, pas seulement celui de Pékin. Je chante beaucoup plus celui de Pékin parce que je vis à Pékin, en fait. Je suis, par exemple, jury permanent d'une compétition nationale d'opéra depuis environ 4 ans déjà, presque 5 ans, d'une compétition nationale d'opéra qui se passe à Anhui. Et Anhui, c'est une province, une très grande province en Chine, où l'opéra local s'appelle le Huangmei Opera.
Beaucoup d'Africains rêvent de l'Occident, des États-Unis ou de l'Europe. Comment décririez-vous votre rêve chinois?
Ah oui, je peux dire que mon rêve chinois part de mon enfance, hein, ma tendre enfance, parce que tout petit, dans mon pays natal, au Cameroun, là-bas, mon père était adorateur d'arts martiaux et ses films étaient très célèbres à l'époque quand j'étais encore tout petit, j'avais 5-6 ans. Des films de Bruce Lee, de Jackie Chan, et ainsi de suite. Bon, et au fur et à mesure de la maturité donc, j'ai commencé à réaliser qu'en fait, derrière certains films chinois, il ne s'agissait pas que de bagarres ou de sauts, mais il y avait tout un arrière-plan culturel très profond et qui m'attirait. J'étais très fasciné par cet arrière-plan culturel.
Voilà, c'était Francis Tchiégué, chanteur d'opéra, joint à Pékin.
Les sports avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Bonsoir Gabi.
Alors, on va commencer en football. L'Allemagne qui maintient sa confiance à Joachim Löw.
Ah ouais,
on m'a dit que c'était ce qu'il faut le prononcer.
Belle prononciation. Hein. Moi, j'aurais pas su. Oui, le sélectionneur des nouveaux champions du monde, hein, il a annoncé ce mercredi qu'il restait en poste jusqu'à l'Euro 2016, comme le prévoit son contrat. Je n'ai pas pensé une seconde arrêter, a assuré le sélectionneur de 54 ans dans une interview publiée par le site de la Fédération allemande de football. Il faut savoir, Gabi, que le sélectionneur avait prolongé son contrat, c'était en octobre, avant la Coupe du Monde, jusqu'en 2016.
Alors, on espère le revoir en 2018 en Russie.
Et oui, cette Coupe du Monde qui aura lieu en principe en Russie, eh bien des responsables politiques allemands appellent à retirer l'organisation du Mondial à la Russie après le crash, vous le savez, d'un avion malaisien attribué à un tir de missile depuis une zone contrôlée par des séparatistes pro-russes en Ukraine. Le ministre de l'Intérieur de l'État de Hesse, c'est dans le centre-ouest, il a jugé inconcevable que la Coupe du Monde puisse se tenir en Russie si Moscou ne coopère pas activement à l'enquête du crash.
Rubrique transfert, Nicolas.
Et oui, on va vous donner évidemment ces quasi-faits, hein, sous réserve de la traditionnelle visite médicale. Serge Ogier, 21 ans, le latéral droit de Toulouse, doit s'engager avec le Paris Saint-Germain. L'international ivoirien doit paraffer un contrat de longue durée avec le club de la capitale française.
Et on termine en cyclisme, Tour de France.
Et oui, le Polonais Rafał Majkak de l'équipe Tinkoff, il a remporté en solitaire la 17e étape au plat d'Adé sur les hauteurs de Saint-Lary-Soulan. L'Italien Vincenzo Nibali de l'équipe Astana, 3e de l'étape, a conforté sa position en tête du classement général au terme de cette étape, la 2e du triptyque pyrénéen.
Merci Nicolas Pinault pour les sports.
Roger Muntou est arrivé à nos côtés pour la page musicale. Salut Roger.
Salut Morgane. La chanteuse américaine Taylor Swift, fille des parents qui ne viennent pas du monde du spectacle, a débuté sa carrière très tôt en composant des chansons dès l'âge de 10 ans. Encore lycéenne, Taylor Swift sort son premier album en octobre 2006 et en vend 3 millions d'exemplaires. En 2009, la nouvelle révélation de la musique pop sort son deuxième album intitulé Fearless. C'est encore un succès. On l'écoute dans Mean. With your words like knives and swords and weapons that you use against me, you have knocked me off my feet again, got me feeling like a nothing, you. With your voice like nails on a chalkboard, calling me out when I'm wounded, you. Picking on the weaker man. Well, you can take me down with just one single blow. But you don't know what you don't know. Someday I'll be living in a big old city, and all you're ever gonna be is mean. Someday I'll be big enough so you can't hit me, and all you're ever gonna be is mean. Why you gotta be so mean? Switching sides and your wildfire lies and your humiliation. You have pointed out my flaws again, as if I don't already see them. I walk with my head down, trying to block you out, 'cause I'll never impress you. I just wanna feel okay again. I bet you got pushed around. Somebody made you cold.
Ainsi s'achève notre émission la mise en onde dirigée par Lionel Gaïma. Laissez-nous vos messages sur la page Facebook.
À la présentation, c'était Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac. On se retrouve dans une demi-heure.